Hello.
Ici Alcato. Aujourd'hui, je ne suis accompagnée que de Nio, puisque
Le
notre
fidèle Néo.
voilà, le fidèle Nio, puisque notre cher Nelson a un empêchement. Et on lui fait des gros bisous. En disant
Bisous à toi,
qu'il
Nelson.
voilà.
Reviens-nous vite.
Et donc en fait, aujourd'hui, du coup, bah, ça va être une petite émission, un petit programme, voilà. On a trois films. Alors, la dernière mission, on avait dit qu'on parlerait pas de plateforme. Et force est de constater que l'un de nous deux n'a pas respecté la consigne. Hein?
Devinez lequel.
Donc,
Alors, quand même, pour info, pas de plateforme, mais le film est disponible en support physique. Donc bon.
oui, puis en plus surtout que bon, il s'apprête à quitter la plateforme, donc
C'est une
voilà.
bonne excuse.
Bah, je sais pas si c'est une excuse, mais du coup, il sera plus sur plateforme du coup.
Voilà.
Alors, on commencera avec moi-même avec Death of Me de Darren Lee Bousman. Ensuite, avec Nio, on parlera de La double vie de Véronique de Krzysztof Kieślowski.
Voilà.
Et ensuite, avec moi, donc La nuit qui terrifia l'Amérique de Joseph Sargent. Donc voilà, et ben du coup, je vais commencer.
Commençons. Commençons, commençons.
Alors, Death of Me. Attends, parce que je me rends compte que j'ai pas ouvert mes notes. J'ai besoin de mes notes, sinon je suis pas. Voilà. Yes. Donc, Death of Me de Darren Lee Bousman. En fait, c'est l'histoire. C'est un film pas. On aurait dit d'horreur à une époque, mais ça fait pas. C'est pas fou comme film d'horreur, quoi. En termes d'intensité de truc. Mais voilà, c'est un peu. Voilà, c'est un film de genre. Donc, l'histoire, le pitch, c'est un couple qui est en vacances, qui se réveille après une bonne beuverie. Ils sont dans un état pas possible. Elle a un collier autour du cou et elle se rappelle pas comment on l'a eu. Et ils doivent repartir de l'île thaïlandaise où ils sont. Donc, en plus, il y a une super île où il y a un typhon qui approche. Mais on leur dit en permanence, vous inquiétez pas, en 200 ans, on n'a jamais rien eu.
Ah, c'est en général quand on dit ça que les problèmes arrivent.
Voilà. Malheureusement, en fait, ils retrouvent plus leur passeport, donc ils peuvent pas en repartir de l'île. Donc bloqués, ils se disent quand même, attends, c'était quoi cette soirée hier soir? Le mari, il se dit, bon, j'ai dû enregistrer des images sur mon appareil photo. Et là, il commence à regarder des images de la soirée, images et vidéos que le mari a pris. Et puis ils découvrent qu'ils ont participé à un rituel qui se terminait par l'assassinat de la femme par son mari. Alors qu'elle est en vie, elle est en train de regarder le truc, quoi. Mais voilà, regarde une vidéo où en fait son mari est en train de la tuer, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc tout le truc va être ça, qu'est-ce qui s'est passé et tout, et de retracer ce qui s'est passé pendant cette soirée avec tout ce qui gravite autour. Donc en casting, ah oui, le réalisateur, alors attends, parce que le réalisateur, moi j'avais pas tilté au départ, puisque sinon il me disait
Mon
rien.
nom dit quelque chose, moi.
Ah ouais? Alors attends, on va. Tu, tu, tu,
C'est
tu,
pas le
tu.
mec qui a fait les sauts? Dis-moi ça. Confirme-moi
Ah
que c'est pas lui qui vient.
si, c'est ça, oui. C'est le mec qui a fait les sauts.
Ah, donc il est en terrain inconnu,
Ouais.
on va dire.
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça au départ j'avais pas tilté, en fait. Je me suis dit, bon, son nom il me dit rien, je vais pas. Et en fait, si, c'est le mec qui a fait les sauts 2, 3, 4. Donc bon. Après, il a fait plein, plein, plein de trucs. Mother's Day. Après, Tales of Halloween, ça me dit vraiment quelque chose. Il a fait un petit segment là-dessus.
Bon, on reste dans l'horreur, quoi.
Ben, il a fait Spiral aussi, le truc qui est sorti, qui est toujours en attente parce que je sais pas si c'est celui-là qui était passé au PIF, pas l'an dernier mais l'année d'avant, je sais plus. Mais du coup, qui est toujours pas sorti chez nous. Enfin bon, voilà, c'est je pense qu'à mon avis, voilà, c'est juste avant Spiral, il a fait Spiral, l'héritage de Saw, il a fait Death of Me. Donc voilà. Donc au casting, on a Maggie Q. Maggie Q, qui est une nana, donc je connaissais de nom. J'ai vu qu'un film en fait avec elle. Et pourtant je connais sa tête et tout, oui, bah oui, mais moi j'étais pas, je regarde pas la film dans lequel elle a joué. Je trouve que c'est pas comme ça. Enfin, j'ai dû voir que Priest, hein. Priest qui était pas non plus le truc qui était avec Paul Bettany, qui était un
Ah
truc assez. Ouais, voilà. Donc, elle a pas la filmo la plus quali du monde, mais elle est très axée divertissement et action. Et en fait, elle a commencé sa carrière à Hong Kong via Jackie Chan, alors qu'elle était mannequin. Donc ce que de pas si mal en fait quand t'es mannequin, commencer une carrière, tu vois. Et en fait ces dernières années, elle a fait beaucoup de trucs, hein, mais ces dernières années t'es plus, elle a fait un peu dans la franchise Divergente. Elle faisait la voix de Wonder Woman pour le dessin animé de la Ligue des Justiciers. Et elle a fait pas mal de TV, hein. Et notamment en 2013, elle a repris le rôle de Nikita dans le reboot de la série tirée du film.
Ça va.
Voilà.
Il y a pire comme TV.
Voilà. C'est honorable. Sinon, on a aussi, voilà, celui qui fait son mari, c'est Luke Hemsworth.
Ah
C'est,
oui.
non, c'est le, non, non, tu confonds, tu vas confondre, attends.
Ah,
C'est
ah.
voilà, c'est le Hemsworth low cost en fait. C'est-à-dire que là, c'est ni Liam, c'est ni Chris, c'est Luke. Voilà.
D'accord, dans la famille, c'est
Chris
le
c'est
moins
Thor,
tordu.
Liam c'est il a fait deux trois trucs pour ado. S'il jouait dans, attends, il jouait dans Divergente d'ailleurs,
Mais tu
Liam
sais
je
qu'on est
crois.
un peu là-dessus.
Et Luke en fait c'est le frère plus âgé, moins beau et moins médiatique que ses deux frères.
Ah, au moins, elle s'est dit, si, il n'y aura pas d'emmerde sur Internet, tout ça, on va pas me...
Non, mais tu vois, enfin, d'ailleurs, c'est très marrant parce que physiquement, en fait, tu vois, les deux, ils sont grands, élancés. Lui, il est petit trapu, donc, voilà. Il bataillera pas sur les mêmes rôles que ses frères, ça, c'est sûr. Mine de rien, en fait, il joue depuis 2003 dans des productions australiennes d'abord, et en s'exportant aux États-Unis, bah comme ses frères, parce qu'à la base tous les trois ils sont australiens, il se débrouille plutôt honorablement. En fait, il fait beaucoup beaucoup de télé surtout. Alors oui, du coup, il a fait des caméos dans deux Thor forcément, comme son frère Joe Dedan, mais surtout en fait, il a joué dans
La famille,
Westworld.
ça sert à aider la famille.
Mais c'est ça. Et surtout, il a joué dans Westworld. Donc la série elle-même tirée du film des années 70, et dans lequel il y avait Yul Brynner, et Yul Brynner avec cette petite scène que du coup quand on la voit on se dit ah mais James Cameron il a tout pompé Terminator sur ça en fait. Bref.
Non, alors, non, non, attends. James
Bah
Cameron n'a pas
si,
tout coupé, mais
bah
c'est
cette
vrai que...
petite scène, excuse-moi, dans le Terminator 2 tu vois le
Oui.
truc, tu fais ah.
Ouais, mais c'est vrai que Cameron, et en plus c'est un cinéphile, et il est fan du film, etc., tout ça, je pense que c'est surtout pour rendre un peu hommage, quoi, parce qu'il y a pas mal de cinéphiles qui ont vu aussi Westworld, donc bon,
J'aime bien
faut voir.
le côté. Maintenant, faut pas dire. C'est suivant du côté où on se trouve, on dit il a pompé, ou alors il rend hommage. Voilà.
Et on dit pas ça pour le cinéma, malheureusement.
Tu vois, c'est comme Joker, tu vois. On sait que on va se dire soit il a rendu hommage à Scorsese, ou alors oh, regarde, il a tout pompé sur Scorsese.
Ah, ça
Voilà.
permet de voir qui c'est qui aime ou qui aime pas, quoi, c'est une bonne méthode.
Oui, enfin après, faut pas faire preuve de mauvaise foi non plus, hein. Mais bon, bref, je continue. Voilà, il a joué dans Westworld. D'ailleurs, c'est une série qui est faite par un autre frère d'eux, donc Jonathan Lohan, et qui est également dans laquelle figurait aussi un autre frère d'eux moins connu, moins beau et plus vieux, et fils d'eux, du coup, dans un rôle très secondaire, voire tertiaire, c'est Gustav Skarsgård.
Ah
Qui est,
oui, c'est le Skarsgård le plus éloigné.
ouais, c'est ça, c'est le moins connu. Non, quoi que, non, il y en a encore un quatrième, en fait, un petit jeune, mais qui jouait, je sais plus, dans un film il y a pas longtemps. Ah putain, je sais plus le nom du film. Bref,
Il y a peut-être les trois,
c'est.
bien ça.
Voilà, il y a les deux plus connus, puis il y en a deux derrière qui. Donc, le plus jeune, on sait pas encore ce qu'il va devenir, mais lui, c'est le plus vieux. Voilà, et visiblement il a un peu le même statut que Luke Hemsworth, et encore. Je trouve que Luke Hemsworth, s'il arrive encore un peu à se débrouiller. Et en fait, du coup, entre Maggie Q et Luke Hemsworth, en fait, on a deux acteurs qui finalement, bah, sans être exceptionnels, c'est quand même des bons petits soldats du milieu, quoi. Ils connaissent le job, voilà,
Oui.
ils ont de l'expérience, tout ça, quoi. Et après, du coup, moi, ce qu'il en, enfin, je trouve qu'il y a une, il y a un, il y a un, il y a un, déjà un point commun avec les films Saw. C'est que les films Saw, moi, la première fois que je les ai vus, en fait, je me suis dit, c'est foutu comme une série de télé. Et du coup, quand tu regardais les films Saw, dès le deuxième ou troisième, ils avaient justement embauché des mecs qu'on voyait plus souvent à la télé, en fait. Genre Costas Mandylor, tout ça, bref. Et du coup, là, bah, en embauchant Maggie Q et Lucas Fors qui sont plus orientés télé, bah, je trouve que c'est un peu dans la même démarche, en fait. Après, sur le film, on est sur des décors qui, bon, bah,
Ça me
certes.
rappelle le sketch de Mosinor quand il dit
Ouais.
là c'est des ninjas, non, il fait, non, des chinois ça coûte moins cher. Bah voilà, les acteurs télé ça coûte moins cher.
Bah, l'avantage, c'est qu'en fait, les acteurs télé, ils sont habitués à faire très vite les choses, en fait. Et du coup, bah, voilà, quand tu fais sur un film, enfin, quand tu arrives sur un film ciné, bah, c'est du réajustement, c'est de la direction d'acteur. Enfin, j'imagine, hein, après, je vais supposer, mais voilà, c'est encore une autre manière de bosser, j'imagine. Bref. Donc, sur le film, donc on a des décors qui certes sont une île paradisiaque, tout ça, mais vu que le typhon approche, en fait, ça jette un voile gris sur les images et ça instaure de fait une ambiance. Donc, après, en plus, du coup, il y a se mêle un petit côté mystique qui est pas désagréable, qui est dû à l'environnement, au côté un peu exotique, tout ça. Ça donne un postulat de départ qui est vraiment pas inintéressant. Le point, vrai point fort du film, c'est qu'il est bien imprégné de son environnement, de la population, de tout ce qui l'entoure, en fait. Et le réalisateur n'hésite pas à exploiter bah, ses décors, justement. Et la caméra suit l'action sans jamais trop se poser. Par contre, ce qui est lent, c'est l'action. Ça manque, moi, je trouve que c'est que ça manque de consistance scénaristique, en fait. C'est plutôt bien planqué, justement, parce que la caméra ne se pose jamais trop longtemps. Mais il arrive des petites choses, en fait, dont on n'a jamais l'explication, à part pour instaurer une ambiance un peu bizarre, quoi. Mais donc, du coup, on ne sait pas si elles arrivent en étant fondées ou pas, quoi. Et des fois, on a l'impression que le scénariste, en fait, il savait pas comment organiser son histoire et il s'est un peu perdu. Alors, puis regardez, ils sont trois scénaristes. Hein. Il y a trois scénaristes, si on a deux qui ont pas tellement d'expérience, qui ont une ou deux expériences de scénariste, et un autre qui a fait beaucoup de télévision ou de court-métrage.
L'hypothèse, c'est peut-être que le troisième, qui a beaucoup plus d'expérience, il a un peu corrigé le script des deux premiers, etc., pour les aider, quoi.
C'est possible. Après, le gars, il a surtout fait de la télé, des courts-métrages. C'est déjà la trame n'est pas peut-être pas forcément la même, quoi. La trame pour travailler. Donc voilà. Ensuite, après, les acteurs, ils sont plutôt investis. Ils font un job honorable. Luke Hemsworth en tête, hein, parce que Maggie Q, elle est gentille, mais enfin, elle joue bien son rôle, mais voilà, on sent bien qu'elle est là parce qu'elle est. C'est une jolie fille, quoi. Après, et puis qu'elle fera jolie quand elle sera un peu perdue, tout ça. Mais après, elle est bien dedans, moi, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que Luke Hemsworth s'en sort mieux, en fait. Le film, lui-même, il est ni très bon, ni mauvais, en fait. Il est un peu fade. Enfin, il l'est tellement que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, en fait, si ce n'est qu'il avait potentiel à faire bien mieux que ce qu'on a au final, en fait. C'est un film frustrant. On est sur une œuvre qui se suit facilement, mais qui n'a pas, enfin, qui est pas hyper divertissante, quoi. C'est en fait sur une copie d'élève, il y aurait écrit peut mieux faire. Donc je pense, ben ouais. Et du coup, je pense ouais, que le réa, il a fait avec ce qu'on lui a filé au final. Donc, voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire là-dessus. C'est pas inintéressant à regarder, cela dit, si vous tombez dessus, jetez un petit coup d'œil, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, mon IO avec la double vie de Valonique.
Ah, eh bien, voilà, je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais voir ce film, et voilà, c'est pas un film facile d'accès non plus forcément, puisque là, on a l'impression que tous les plans du film te disent, regardez, regarde, regarde, tu es un grand film, tu es un grand film, tu es un grand film, tu fais, oula, oula, c'est quand même... Ah non, mais il y a des films parfois tu sens qu'ils revendiquent ouvertement. Donc on va parler un peu de La double vie de Véronique. Donc du coup, c'est un film de notre cher Krzysztof Kieślowski, qui est un réalisateur, qui était plutôt un réalisateur polonais, parce qu'il est né en 41, il est mort en 96. Il est parti d'ailleurs à l'âge de 54 ans, il est parti trop tôt. Et ça fait partie de ces réalisateurs qui, ça c'est mon hypothèse personnelle, mais ça fait partie de ces réalisateurs tout comme voilà, Kieślowski, Zulawski, voire même Sklimowski, qui ont pu relancer un peu une partie un peu du cinéma en France, ou plutôt disons qui ont relevé la barre, qui ont mis la barre assez haut. Parce que quand on voit les films de justement de Kieślowski justement ou de Sklimowski, on voit quand même que côté mise en scène tout ça, même je pense à Zulawski quand il fait Possession, ou même L'amour braque, les films en France avec, que ce soit avec Sophie Marceau ou sans Sophie Marceau, que ce soit L'amour braque, Les nuits sont plus belles que vos jours, etc., tout ça, tu sens quand même que même avec un sujet banal, le mec il a une mise en scène monstrueuse, quoi. Bon, je pense que ça a dû donner des sueurs froides à certaines personnes dans le milieu. Et apparemment, ça a été confirmé vu que j'ai un bouquin sur Zulawski, mais on y viendra en temps voulu quand je parlerai justement de un ou des films de Zulawski prochainement.
D'accord.
Du coup, notre ami Kieślowski, c'est marrant tous ces noms, il faut faire attention de pas buter sur lui. Kieślowski, quelques mots sur lui.
T'as quand
Donc,
même enchaîné trois noms sans te planter, ça va.
oui, voilà. Donc, il est issu de, il a fait l'école nationale de cinéma de Lodz. C'est une école donc qui est très importante pour tout le cinéma. En gros, c'est quasiment une grosse majorité des réalisateurs, directeurs de la photo, acteurs et actrices de Pologne qui viennent de cette école prestigieuse, l'école de Lodz. On va citer par exemple le réalisateur Munch, ainsi que Polanski, enfin un certain Polanski, Sklimowski, Wajda, Zanussi, donc Kieślowski aussi. On citera aussi par exemple les acteurs, alors c'est un peu moins connu les acteurs, mais je pense à Malgorzata Foromniak. C'est une actrice qu'on a vue dans Avalon de Mamoru Oshii, donc preuve qu'elle ne joue pas qu'avec des réalisateurs polonais, elle joue avec un réalisateur japonais quand elle est venue en Pologne justement pour tourner son film de science-fiction de guerre. Mais comme souvent chez Mamoru Oshii, on interroge la réalité. Et donc Kieślowski, lui, c'est un réalisateur donc qui a beaucoup travaillé dans son pays avant de le quitter, de s'exiler en France, tardivement, on va dire, vu qu'il est connu chez nous pour sa trilogie qui est trois couleurs bleu, blanc, rouge, qui tourne en 93 et 94, les trois films, et La double vie de Véronique qui tourne en 91, se situe à ce moment-là où il y a encore un pied en Pologne et un pied en France. D'ailleurs, le film est bien représentatif de ça, vu qu'on a une actrice, Irène Jacob, qui porte le film, qui est monstrueuse, qui joue les deux personnages. Véronica en Pologne et Véronique en France à Paris. Avant ça, Kieślowski est surtout connu aussi pour le Décalogue. C'est une série, au début ça devait être comme des épisodes d'une espèce de mini-série, 10 épisodes, et à chaque fois porte sur un des commandements de la Bible. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, etc. Alors les épisodes en plus ils font 50 minutes, et ça a eu un tel succès en Pologne et même dans le monde qu'il a fait, il a développé deux des segments pour en faire des films. Notamment, Tu ne tueras point en 88 et Brève histoire d'amour en 88. Donc voilà. Donc l'essentiel de sa carrière, elle nous est encore inconnue. Il a fait pas mal de documentaires et de films quand il était en Pologne. Et on ne connaît véritablement chez nous, en tant que cinéphile, que ce qu'il a fait en France avant de disparaître à la cinquantaine. Le style de Kieślowski, pour l'instant, je n'ai vu que La double vie de Véronique. Et ça va être très dur de parler de son style, vu que La double vie de Véronique, j'ai eu l'impression d'avoir accès à un film insaisissable. Alors, on va raconter un peu l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, et je sais que vous attendez que ça, bande de petits cochonneux. Donc, La double vie de Véronique, en fait, on suit le destin de deux femmes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, jouées par la même actrice, Véronica en Pologne et Véronique en France. Et en fait, on va comprendre très vite que, sans même être jamais vues, leur destin, et c'est comme un miroir. C'est-à-dire que, par exemple, dès le début du film, on a une des gamines, la mère lui dit « Regarde les étoiles, etc. » On est en hiver. Tandis qu'on a tout de suite après une scène en français avec une gamine qui ressemble vraiment très très proche, peut-être une jumelle. Et en France, la mère lui dit « Regarde, le printemps arrive, etc. » Donc voilà, c'est comme un décalage. L'une des deux gamines, à un moment, se brûlera le doigt dans une chaudière. Donc c'est pour ça qu'elle aura un problème de doigt, elle pourra pas faire du piano. Enfin, elle va faire du piano, mais elle va pas pousser sa carrière, elle va plutôt continuer dans le chant. Tandis que l'autre, elle a pas de problème à sa main, mais elle a quand même une marque au doigt. Et visiblement, la seconde Véronique, celle qui est en France, elle bénéficie comme de l'expérience de la première. Comme si elle avait un don de prescience, elle savait les choses. Elle savait un peu éviter les choses, tout ça. Ça, c'est un aspect assez fascinant, parce que le film trace un peu de côté deux destins et montre un peu les fils du hasard, mais sans jamais appuyer lourdement. N'importe quel réalisateur te ferait, par exemple, soit un plan avec un split screen, c'est-à-dire donc l'image dans les deux écrans, soit un plan sur ce qui se passe en Pologne, en France, etc. Mais passer l'introduction du début avec quand on voit les deux gamines enfants 5 minutes, après la première partie du film, on ne suit que la Véronica qui est en Pologne. Et là, à un moment, justement, le film va basculer pendant un court instant. On va voir la Véronique française qui est justement en Pologne pour des vacances, qui fait un reportage photo. Le plan est très bref. Véronica, la version polonaise, a vu son double monter dans le bus. Elle le voit de loin. L'autre ne l'a pas vu. La française ne l'a pas vu. C'est important de dire ça parce que, pour moi, c'est un peu l'image du doppelganger. Le doppelganger, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un mot qui provient de l'allemand, qui signifie que tu as un sosie ou un double. Et dans le folklore germanique, le doppelganger, donc c'est ta copie, ton double. Ça peut être aussi une version alternative de toi. Mais ça peut aussi être une version double de toi qui peut être maléfique, qui peut être mauvaise. Et d'après les légendes, quand tu vois ton doppelganger, quand tu vois ton double, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu peux avoir des malheurs, voire une mort imminente. Donc, l'une des deux Véronica a vu l'autre, mais l'autre ne l'a jamais remarqué. Ou du moins, pas tout de suite. Et, je sais pas si j'ai le droit de spoiler, mais en même temps, c'est un fait connu du film, donc je vais pas trop spoiler, je vais utiliser une formule. Mais en gros, Kieslowski n'a pas peur de faire comme Hitchcock dans Psychose. Dans Psychose, on suivait une héroïne, on croyait que c'était celle-ci. Manque de peau, elle disparaît après 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
D'accord.
voilà, je vais pas trop spoiler. Mais disons qu'il y a ce passage qui a des répercussions, curieusement, sur la Véronique en France. Et les répercussions, ça va même, la musique, etc. La Véronica qui est en Pologne, elle fait du chant, et il y a une scène magnifique de concert, de musique, de concert, où elle chante hyper fort, hyper aiguë. Et quand, là, quelques mois plus tard, la Véronique, sans faire exprès, elle va entendre une cassette avec cette musique, elle va être touchée avec des larmes qui vont couler. Elle va pas savoir pourquoi. Mais nous, spectateurs, nous savons qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a cette espèce de résonance. Et en même temps, justement, le film n'appuie jamais vraiment dessus. On aimerait s'attacher à notre héroïne, parce qu'en plus, il la filme merveilleusement comme sa muse. Et elle porte quasiment tout le film sur les épaules. Vu que le reste du casting est franco-polonais, mais n'a pas vraiment d'acteur très connu. Il y a peut-être Philippe Wolter, qui est un acteur de théâtre, mais franchement, avant ce film, la double vie d'Ironique, je l'avais jamais vu ailleurs, quoi. Bon. Voilà, c'est un film sur le destin et c'est un film assez insaisissable qui n'appuie pas trop sur les choses. En fait, c'est le genre de film qui, de par ses parties pris, mérite d'être revu. Peut-être qu'il mérite d'être apprécié. Sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, mais j'ai pas fondu en larmes, j'ai pas été comme beaucoup de gens que j'ai vu sur la toile qui disent que c'est un chef-d'œuvre, etc. Voilà. Mais il y a
Ouais,
aussi
t'as
beaucoup de gens
l'impression
comme
que
moi.
c'est, y a peut-être certaines personnes qui le surestiment peut-être trop ou un truc comme ça.
Alors, il y a peut-être ça, mais aussi, visiblement, j'ai remarqué aussi que pas mal de gens sont comme moi restés sur la porte, le pas de la porte, tout en ayant vu quand même la qualité du film, parce qu'il y a quand même des moments de grâce qui sont incroyables dans le film, et on aimerait que ce soit pendant tout le film. Mais non, c'est pas pendant tout le film. Et d'ailleurs, il y a un parti pris esthétique qui pourrait gêner beaucoup de gens. Voilà, Amélie Poulain n'a pas inventé le filtre vert. Voilà. Là, la double vie d'Véronique, on a pas mal de une photographie qui est souvent quasiment verte, avec parfois des plans rouges, comme dans le Giallo, mais c'est à 80% des plans verts, un peu jaune-vert, tout ça, etc. Je me suis senti, il y a des moments où je trouvais ça très beau, très beau, et puis il y a des moments où j'ai eu un moment de recul, parce que j'ai trouvé que c'était trop. Et voilà. Mais la différence, c'est que Amélie Poulain est beaucoup plus ludique, c'est-à-dire que la double vie de Véronique est beaucoup plus existentialiste, contemplative, etc. Mais justement, c'est juste pour ses qualités, et puis la musique qui est merveilleuse. Non, franchement, c'est un beau film. C'est un très beau film qui pose des questions intéressantes. Et qui, par moments, on se dit, on aimerait que ça aille plus loin, que ça laisse pas les choses sur le pas de la porte, que c'est un peu plus poussé. Et d'un autre côté, on se dit, Kieslowski, il a un peu conçu son film pour qu'on le revoie avec le temps, etc. Tout ça. Donc voilà, j'en reste sur une impression assez positive quand même, quoi. C'est un beau film et avec des moments formidables. Et puis à d'autres moments un peu plus légers. Notamment, je sors un peu de mon cadre, je voulais un peu terminer là-dessus, mais je veux quand même dire un truc qui m'a un peu gêné, qui pourrait plus trop passer à l'époque actuelle. Elle tombe amoureuse de quelqu'un, et ce mec, pour la draguer, disons qu'il la drague un peu comme un stalker, quoi. Et là, tu te dis, à l'époque actuelle, tu te dis, c'est lourd, ça peut plus trop passer, quoi. Alors évidemment, c'est bien filmé, c'est bien dit, et le mec, il n'est pas trop insistant non plus, mais la méthode qu'il le fait en lui envoyant un truc à son adresse, etc., tu fais, ouais, enfin moi, j'ai l'impression que ce serait un peu du harcèlement, quoi, je veux pas dire, mais bon, moi, je souffrais un peu. S'il y avait une cassette avec des gens, des voix bizarres, ou même qu'on m'appelle à minuit, qu'on entend juste ma respiration, je suis désolé, mais moi, je flippe un peu, quoi.
Il y a un paquet de trucs comme ça, si on les voit avec le regard de maintenant, on se rend compte que
Voilà.
quand même.
Après, le mec, tu comprends vite que c'est quelqu'un de très timide, etc. Ça, c'est juste qu'il s'y prend très mal, quoi. C'est pas un mauvais boom, mais il s'y prend très mal.
Tu sais à quoi ça fait penser? Ça me fait penser, tu sais, je crois que c'était la pub Pâté Gaumont ou un truc comme ça, en fait.
Ouais.
Où justement, l'histoire, c'était une pub où t'avais un jeune mec, d'ailleurs, qui joue dans Le Dernier des Pontelles, qui allait au cinéma tout le temps pour une nana ou je sais pas quoi et tout. Et en fait, et je pense que quand ils ont fait le truc, c'était, tu te dis, ça doit être mignon, mais en fait, le mec, c'était un vrai stalker, en fait, quand tu regardes la pub. Et du coup, quand elle est sortie, la pub, t'as des gens qui ont fait, non, mais non, 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 qui a eu cette idée, là, chez vous? C'est pas possible.
Enfin bref, pour terminer un peu sur la double vue en X, c'est vraiment non, je regrette pas de l'avoir vu. C'est un beau film. Il y a des moments de grâce et il a eu pas mal de nominations de récompenses. Donc on va quand même citer quand même à Cannes Irène Jacob, meilleure actrice en 91. Voilà, elle a eu le prix à Cannes, meilleure actrice. Et franchement, elle est incroyable, franchement, je la connais, je n'avais jamais vu de film avec elle avant, honte à moi, mais j'en ai un peu son parcours. C'est pas une actrice qui a tendance à plutôt se mettre devant, etc. C'est plutôt une actrice assez secrète à la base.
Ah oui, moi je la connaissais que pour ça, hein, que pour avoir joué sur Échiquier Slovaquie.
Non, mais en fait, elle a joué, par exemple, elle joue un petit rôle dans US Marshal, la suite du Fugitif. Mais bon, c'est plutôt Tommy Lee Jones qu'on va regarder en premier lieu. Elle jouait par exemple dans Au revoir les enfants de Louis Malle. Elle jouait dans Trois couleurs rouges où elle retrouve Kieslowski. Mais en fait, elle a une carrière qui est très intéressante où visiblement elle choisit ses rôles, mais c'est pas des rôles qui vont la mettre en avant. Elle sera pas au premier plan, quoi. C'est un peu dommage parce qu'elle est incroyable. Et sinon, donc voilà, donc prix meilleure actrice à Cannes en 91. Kieslowski a eu aussi le prix Cypressy donc à Cannes. Prix du jury aussi à Cannes en 91, prix du jury œcuménique, et il était nominé pour la Palme d'Or, mais c'est pas lui qui l'a eu. Mais bon voilà, il est reparti avec pas mal de prix, et c'est son actrice aussi, donc je pense pas qu'il va tirer la gueule. Voilà, il a été aussi nominé aussi au César. Ah ouais, meilleure musique, meilleure actrice, tout ça. Et franchement, j'ai envie de dire, au vu du film, il le mérite. Franchement, le film mérite les prix, l'actrice mérite le prix, la musique est formidable. La musique, elle est incroyable. C'est juste que je regrette d'être un peu resté sur le pas de la porte par moment parce que voilà, c'est une proposition de cinéma qui fait plaisir au cinéma français ou franco-polonais, qui relève le niveau, qui relève le niveau, qui fait plaisir. Et si tous les films français, enfin, je vais pas dire tous, si tous les Français étaient comme ça, voilà, mais j'aimerais bien voir plus de films comme ça qui ont vraiment une ambition de scénario, à partir d'un scénario presque basique à la base, et de l'élever. Qui ont une ambition esthétique, une ambition musicale, voilà, c'est franchement, j'encourage ça, ça fait plaisir. Voilà.
Ok, bah
Je me
écoute,
suis un petit peu débordé, je suis désolé.
t'as attiré ma curiosité pour le voir.
Ah bah écoute, t'as qu'à voir les photos du film ou même des bandes annonces ou d'autres
Mais
trucs,
non, mais
tu
là, je l'ai
verras
sous les
que
yeux, je vais voir le film directement avant qu'il quitte la plateforme,
Ah,
en fait.
voilà.
Alors, on va continuer avec moi-même.
Wow.
Quoi? Moi? Avec La nuit qui terrifia l'Amérique. Alors, La nuit qui terrifia l'Amérique, c'est un film de télévision de 1975.
Écoute, tout à l'heure, je me dis que ça me dit quelque chose.
Ouais,
Ah.
Alors, je te fais le pitch.
Vas-y.
1938, Orson Welles émet son émission où il joue la guerre des mondes de H.G. Wells en théâtre radiophonique. Malheureusement, trop de gens, notamment ceux qui prennent l'émission en cours, pensent réellement que les extraterrestres débarquent aux États-Unis. Voilà. Donc le film, en fait, c'est ça. C'est pendant que nous suivons Marcel Ouest faire son émission, en parallèle, on nous montre une galerie de personnages qui vit ses instants.
Oui, je crois que tu voulais le voir, tu nous avais parlé
Non, 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 en
il y
fait c'était
a.
un autre film dont j'arrive toujours pas à voir le truc que j'ai déjà vu, justement, c'est ça le pire. C'est que c'est un film, et ça c'est un film plutôt récent en plus, qui est après les années 2000, et j'arrive toujours pas à me souvenir, et depuis tout à l'heure je regarde où c'est. C'est un film que j'ai vu qui... Alors là dans le film, on suit le film du point de vue du studio où Orson Welles fait son émission, et de temps en temps on bascule sur chaque point de vue, dans chaque famille, dans chaque truc, tu vois. Alors que là, le film que j'avais vu, ça se passait dans un petit village, justement. Mais on basculait jamais du point de vue d'Orson Welles, hein. C'était juste ce qui se passait au sein du petit village à ce moment-là, quoi. Donc,
Ok.
et je ne me souviens absolument plus du titre, mais voilà. Donc on c'est un film choral où on a toute une galerie de personnages. Donc on a par exemple un fils qui vient d'annoncer à son père qu'il va à la guerre, parce qu'en rappelant on est en 38. On a un mari qui s'apprête à quitter femme et enfants, avec cette fameuse phrase, c'est toi qui voulais des enfants, pas moi. Ah, c'était beau à cette époque, on pouvait se servir de n'importe quel prétexte pour
Je
fuir les
veux bien que
responsabilités.
j'étais bourré, torché, etc., mais je voulais pas d'enfant.
C'est ça. On a une soirée chez des bourgeois, assez cossus.
C'est grâce à Claude Chabrol que ce sont des gens qui savent s'amuser.
on a aussi un couple qui ne peut pas se marier pour une question de différence de religion, parce que elle est fille de pasteur et que lui vient d'une famille catholique. Donc
C'est
voilà.
une chose qui arrive.
Donc ce qui est sympa en fait, c'est pas juste qu'on voit Arcelo est-ce qu'il fait son truc, hein, et tout le monde qui plonge. C'est en fait qu'on voit tout le processus en fait de mise en place de l'émission, de l'équipe qui participe, ce qui rend du coup encore plus ridicule le fait que les gens puissent croire à une véracité de l'histoire racontée, quoi. D'ailleurs, il y a un personnage à la fin du film qui incarne parfaitement ce qu'est le spectateur. Il leur balance une phrase, il dit bah oui mec, c'est exactement ce qu'il fallait leur dire, quoi.
Mais ouais.
Mais en même temps, en fait, tout ça fait évoluer les personnages, tu sais, c'est le fameux des fois il faut une grosse frayeur, quoi, pour remettre les choses en place, quoi. On est sur une tranche de vie qui fait évoluer chacun, du coup, et le film a un déroulé au rythme plutôt correct, parce que de toute façon le réalisateur, en fait, il a quasiment fait toute sa carrière à la télévision, donc bon, il connaît le job, voilà, c'est la routine en fait. Et quand tu vois le film, la réalisation, ça c'est du job de routine, quoi. Bah ouais. D'ailleurs, en partant du rail, on va parler aussi vite fait du casting avant que je continue. Sur le casting, on a quand même pas mal de... Enfin, on est surtout sur des acteurs qu'on a vus en fait dans les années 70, 80, 90, des têtes qu'on a vues à la télévision, pas mal. Genre Cliff de Jong, en fait, tu vois, enfin, si vous tapez dans Google, vous allez voir sa tête, vous l'avez forcément vu dans un paquet de trucs. Ou John Ritter, en fait, il avait fait plein de trucs, notamment des sitcoms, des séries, des trucs comme ça. Il a été, alors, plus précisément, nous on le connaît aussi parce qu'il a joué dans la première version téléfilm de Ça. En fait, il jouait un des personnages adultes. Donc voilà. Sinon il y a Tom Bosley en fait qui jouait dans Happy Days. D'ailleurs il y a une ils avaient lui quelques acteurs en fait de la série Happy Days. Ils avaient poursuivi CBS parce que en fait ils n'avaient pas touché d'argent sur le merchandising en fait, ou peu, enfin il y avait un truc comme ça, il y a une question d'argent pour de merchandising, quoi. Et il y a aussi Michael Constantine, qui est un acteur en fait que je me rendais pas compte à quel point il était vieux, mais en fait là le film est de 75 et il fait le père de John Ritter. Et là je le regarde, je me dis mais enfin c'est pas possible, Enfin, c'est comme s'il lui avait fait mis des cheveux pour vieillir, mais je me dis non, c'est pas, enfin, voilà. Mais en fait, je regarde, le gars, il est né en 1927, il est toujours pas mort. Et il a 93 ans, un truc comme ça. Et en fait, Michael Constantine, on le connaît aussi pourquoi, parce que bon, il a fait un paquet de trucs à la télé, lui aussi, hein. Mais genre, il a fait toutes les séries que tu peux, qu'on a vu passer. Rick Hunter, Arabesque, enfin, tout, Simon et Simon, enfin, toute la clique, mais... Et il continue de travailler en plus. Enfin, il a son dernier truc date de
Il faut bien
2016.
payer sa retraite, hein.
Son dernier truc date de 2016 du film. C'est la suite du film dans lequel on a peut-être pu le voir au cinéma. C'est Mariage à la grecque.
Ah.
Parce que dans Mariage à la grecque, la nana, enfin, elle a son père en fait. Il joue le père de la fille en fait. Le mec qui est obsédé par le Windex et qui soigne tout avec du Windex en fait.
Ah, oula.
C'est aussi mon ordinateur qui fait savoir des
Ah
trucs.
bah bravo.
Ouais. Donc voilà. Et donc voilà, moi j'ai vu sa tête, je me dis, tiens, mais putain, 75 déjà, mais. Ok. Donc voilà. Et on a aussi, alors attends, non, c'est bon, j'ai évoqué tout. Bref, des acteurs qu'on a beaucoup vus dans la télé, même si on connaît pas leur nom, en fait, on connaît leur tête, quoi. Donc j'en étais. Tu veux j'entends mon
Ah bah bravo.
Ben
Ça, c'est la faute du téléphone fou.
mais c'est ça. Donc oui, il y a aussi en fait l'ombre de la guerre et du nazisme en fait qui plane par des bribes de dialogue, mais aussi dans les dernières secondes du film quoi. Que ce soit dans la bouche des bourgeois où tu te rends compte que les bourgeois ça va le nazisme c'est pas le truc qui leur faisait peur hein. Surtout aux États-Unis les
Ouais.
mecs ils en étaient loin c'était limite ils étaient pas là oh mais Claire il est intéressant comme personnage bon, bref ils... ah oui quand même sinon ouais enfin c'est une tranche de vie qui va faire évoluer chacun comme je l'ai dit le film a un déroulé correct en fait il cherche pas à épater la galerie et en fait il se contente de décrire une situation qui est enfin plutôt bien quoi et finalement on se laisse entraîner dedans quoi mais alors du coup le film se moque un peu de la situation justement de tout ça en fait du côté insolite du truc et en fait il en profite pour mettre en lumière certaines petites choses avec des petits dialogues sympas genre le domestique revanchard tu sais chez les bourgeois en fait quand on lui demande pourquoi il avertit puisque lui il sait que c'est une pièce à théâtre hein, qui est en train de jouer alors que ses patrons ils sont là quoi qu'est-ce qui se passe et quand on lui demande pourquoi il avertit pas ses patrons que c'est une pièce jouée c'est la bonne qui lui demande ça il fait bah pour leur dire encore faudrait-il qu'il me le demande et il se délecte tellement de les voir flipper quoi à tel point que plus tard en fait il dira alors que la panique est à son comble et il se met à leur crier peut-être qu'avec les martiens les trains arriveraient à l'heure hein, comme en Allemagne on est en 38 quand même hein. Donc voilà et puis bon, bah il y a le père qui ne comprend pas que son fils va y aller se battre à la guerre. Et au moment où ils prennent les armes pour se confronter aux extraterrestres, il fait bah ça tombe bien, t'avais envie de te battre. Donc voilà, c'est une bonne petite tranche d'histoire assez sympathique. Après c'est pas d'une grosse folie non plus, hein. C'est-à-dire qu'on se bisonne pas ou quoi que ce soit. C'est par des petits machins comme ça et tout, par-ci par-là qui sont assez plaisants. Mais en tout cas l'ambiance du truc est plutôt bien retranscrite. Et il me semble que le film a eu 2 Emmy Awards. Alors attends, je vérifie. Attends. Ouais, il y a eu. Enfin non. Il y a 2 nominations aux Emmy Awards. Et ouais et je crois qu'ils ont ouais je crois qu'ils ont gagné pour le son voilà
moi ça me fait penser je peux pas m'en remarquer de penser à cette scène dans le film Radio Days de Woody Allen
ouais.
Où il raconte son enfance qui était bon bercée par la radio parce qu'il y avait pas la télévision dans les années 40 et à ce moment-là il y a le feuilleton radiophonique d'Orson Welles qui passe à la radio et il y a la sœur plus âgée qui est censée être qui est célibataire qui fait à chaque fois de se mettre avec un mec et qui arrive jamais parce qu'il y a un truc qui le dernier moment c'est le gars qui fait tout foirer là ils sont dans la voiture ils sont en train de se bécoter elle se dit ça y est j'ai enfin passé la casserole et à la radio on entend justement qu'il y a l'invasion martienne qui commence et le mec il est tellement terrorisé il se barre de la bagnole etc et elle est à nouveau seule mais C'est un Woody Allen que personne ne connaît ou qu'on a tendance à mettre de côté. Alors moi, j'aime beaucoup ce film, quoi. C'est tellement, tellement cool, quoi.
Les vieux Woody Allen étaient nettement plus intéressants. Enfin, moi, j'aime bien Zelig, mais j'aime
Lequel?
pas Zelig.
Ah, et Zelig est excellent. Mais c'est la même période, c'est les années 80,
Ouais.
c'est en âge d'or.
Et
En âge d'or aussi,
j'avais bien aimé Bananas. Je dois avoir le DVD quelque part, enfin, un truc comme ça. Mais bref, ah oui,
Oui,
et
il
du
est
coup,
hyper
en fait,
évalué, hein.
ouais. Et du coup, en fait, je reviens sur un truc, en fait, c'est-à-dire que là, on est quand même dans une situation qui est réellement arrivée, où où les mecs ont un peu paniqué, alors peut-être pas autant que ça a été dit, mais où ils ont quand même un peu paniqué, et il a suffi pour ça que d'une émission de radio, en
C'est ça.
fait. Et donc, en fait, c'est juste pour dire que les réseaux sociaux, on n'arrête pas de les accabler, en fait, en disant, regardez, tout ceci, cela, la haine, c'est machin, tout ce qui arrive à cause des réseaux
Tonton.
sociaux. Ouais, parce que je vous m'en dis tout ce qui arrive à cause des réseaux sociaux et tout, alors qu'honnêtement, en fait, pour foutre le bordel, il n'y a vraiment pas eu besoin des réseaux sociaux pour ça, quoi. C'est-à-dire qu'il suffisait d'un rien, hein, en réalité, hein. C'est pas une question de réseaux sociaux, c'est pas une question de médias,
Bah, je
c'est une
pense
question
aussi.
d'être humain, hein.
L'être humain, mais aussi, je pense que d'un autre côté, le contexte, c'est la chose qui monte. T'as la montée du nazisme, etc. T'as le
oui
communisme qui est pris sur les Américains. Je pense que tout ça joue, et puis évidemment, à un moment, bah, il y a un truc qui pète. C'est tout comme nous avec les réseaux sociaux, et à un moment, il y a pas mal de trucs qui montent, le Covid, d'autres trucs, et puis ça commence à
Ah
péter.
oui, mais c'est même pas une question de médias, c'est une question d'environnement, d'être humain, machin. Donc c'est pour ça, moi, ça me fait rire quand tu vois le truc comme ça et qu'en fait tu penses que de nos jours, en fait, le moindre truc qui arrive, c'est ah, oh, mon Dieu, les réseaux sociaux. Je fais, ça va, les réseaux sociaux, ils sont là depuis combien de temps? Le bordel, il est là depuis combien de temps? Donc bref, c'est juste une petite aparté comme ça. Voilà, moi, ce que j'avais à dire sur la nuit qui terrifia l'Amérique, j'ai une petite rectif que j'ai à faire sur Bronx.
Ah.
Ouais, je vais revenir sur Bronx dont j'avais parlé dans je sais plus quelle émission, je crois que c'était bah c'est en
C'est pas la
décembre,
semaine
je crois.
dernière.
Non, non, c'était en décembre. Et
Non.
en fait, à un moment, quand on avait parlé du film, on avait dit qu'en fait, il avait, notamment moi, puisque c'est moi qui en avais parlé, que Marshall, en fait, avait eu les moyens donnés par Netflix. Alors, Netflix n'est pas du tout à la prod de Bronx, en fait. Ils sont que distributeurs et c'est Gaumont. Et Netflix n'a fait que distribuer. Donc, en fait, c'est la faute à Gaumont qui ne chapeaute pas suffisamment Marshall pour qu'il arrive de fête dans la merde. Voilà.
La faute à Gaumont, ça pourrait être une musique. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. J'ai pas pu faire mon film, c'est la faute à Gaumont.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait j'étais, en fait c'est parce qu'hier je discutais avec des amis en fait et qui disaient oh là là mais je trouve que tel film pour une production Netflix et en fait je regarde le film c'est pas du tout une production Netflix, c'est distribué par Netflix, alors ils le mettent comme Netflix production originale machin tout, mais quand tu regardes en fait il est pas en fait ils produisent beaucoup moins de films qu'on a l'impression qu'ils le fassent, enfin qu'ils le font, c'est-à-dire qu'ils sont plus ils font énormément d'acquisitions par contre, mais en production il y en a pas tant que ça et donc bah par exemple I Care a Lot qui est sorti il y a pas longtemps qui d'ailleurs vaut une nomination au prochain Golden Globes à Rosamund Pike, c'est pas
Elle les
une
collectionne.
ouais, mais c'est justement pas une prod Netflix, alors qu'on pourrait penser que ça émane de Netflix, mais ils sont juste distributeurs. D'ailleurs, sur certains pays, sur quelques pays, c'est Prime qui a les droits. Donc voilà, c'était une petite aparté sur Bronx et les distributeurs de Netflix. Voilà.
Ok.
Donc c'était une toute petite amassée aujourd'hui. Un petit
Ouais, mais c'était bien, je trouve qu'on a parlé de films intéressants et même les Zulaski, c'est un beau film, un grand film, quoi. Donc, voilà.
En fait, là, j'étais en train de regarder donc La double vie de Véronique qui prime ce soir, mais il y a d'autres films de Kieślowski qui sont encore sur la plateforme. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine avec notre cher Nelson. Voilà, on espère voilà que tout ira mieux et
Au revoir.